création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Danser l'après-midi d'un faune, le 3 juillet 2003, est-ce bien raisonnable quand vous êtes invité par le maire de Bordeaux et qu'en parallèle, les intermittents du spectacle contestent la réforme de leur assurance chômage? Pour le directeur du musée de la danse, la réponse est à l'époque évidente. Venir quand même, oublier le faune et jeter dans la grève un objet qui sera produit en résonance avec le conflit et le protocole contesté. Ce soir donc, une pièce présentée en collaboration avec le CNAP dans le cadre d'une commande publique diffusée une première fois le 23 novembre 2003. Par Boris Charmatz et Gilles Mardi-Rossian, atelier de création radiophonique, danse, intermittence, j'ai failli.
Ah stop, tu bouges plus du tout. Bouge plus, non, tu gardes la table levée. Tu bouges plus du tout, plus du tout. Donc tu te fiches totalement, tu respires même plus. Tu limites la respiration au maximum, tu essaies de pas trembler. Tu maintiens la table levée, tu maintiens la tension des doigts, voilà. Alors, on imagine que souvent, on commence les cours par respirer, soit par bouger, se mettre dans l'espace, bouger, prendre l'espace, observer, dérouiller. Soit au minimum, même si on s'allonge au sol sans bouger, de faire respirer, préparer au mouvement. Et moi, je me dis non. Commençons par figer. Donc, je te laisse un petit peu comme ça. Voilà. Plutôt que de prétendre que le professeur aime l'élève, l'aide, lui permet le mouvement. Soyons un rapport franc, quoi. Non. Le professeur commence toujours par bloquer l'élève. Commence par... Après tout, dans la fixation, dans le nœud, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à trouver. Même si on essaye de ne pas bouger, ça bouge. C'est sûr. Et au minimum, moi, je bouge. Autour. Et la sensation de l'espace autour bouge. La sensation de chaleur... C'est automatic teaching, c'est-à-dire tu te laisses on dit automatique, écriture automatique, bon, avec tous les multiples sens que l'écriture automatique peut avoir, mais automatic teaching, c'est encore autre chose, c'est un dérivé de authentic movement, c'est un dérivé de psychanalyse. Authentic movement, c'est proche de automatic movement, c'est proche de automatic writing, donc on peut faire aussi automatic teaching. Enseignement automatique, c'est juste descendre doucement, c'est-à-dire presser, utiliser l'espace fermé. On ferme, on commence par fermer, ferme la hanche, ferme l'articulation, ferme la bouche, ferme les langues, ferme les muscles, utilise la rigidité, ne laisse pas respirer, enferme-toi et utilise ces fermetures. Non pas pour... Peut-être, qu'est-ce que tu peux faire? Une fois que c'est bien fermé, un peu de partout, il y a toujours un endroit qui est moins fermé. Il suffit de fermer plus d'un côté pour que ça s'ouvre un peu de l'autre. Et en tout cas, ces fermetures, plutôt que de s'opposer au mouvement, le jeu de fermeture, ça peut glisser. Une fermeture peut glisser sur l'autre. Ça peut se froisser, ça peut crisser, ça peut frotter. Et le jeu de fermeture, c'est pas nécessairement fermeture au mouvement, limitation du terrain d'action. C'est, dans le fond, une possibilité de rouage, d'enrobement possible de la fermeture. On fait un cocon autour des fermetures pour les laisser frotter, glisser les unes par rapport aux autres. Et à l'intérieur de ces fermetures, on essaye d'amener les fermetures vers le bas. On essaye de laisser le genou fermé s'approcher du sol. On essaye de presser. On se laisse pas fondre. On ne se laisse pas du tout fondre au sol. On presse les fermetures vers le sol. On amène la nuque bien fermée vers le sol. On amène l'estomac bien pressé. On appuie fort et on n'arrive jamais à descendre parce que plus on appuie à un endroit, plus il y a un autre endroit qui, bien qu'attiré vers le sol, se redresse et le jeu de fermeture amené vers le sol, pressé vers le sol, c'est au fond création d'une machinerie qui sans cesse se relève, on enfonce. On veut s'enfoncer dans le sol et plus on veut s'enfoncer, moins on touche le sol, plus on est possiblement dans du fakirisme, on enfonce les doigts dans le sol. Ça veut dire que l'ensemble du corps tient sur les doigts. Il y a tout le poids du dos sur deux doigts. Il y a tout le poids du dos sur un ischion. Il y a tout le poids du dos sur... Il y a tout le poids du dos bien noué. On fait un nœud, on noue totalement, sauf, on laisse une toute petite partie dénouée. On laisse une main errer. On fait un nœud global et on laisse une petite main chercher à droite, à gauche. On fait un petit jeu de droite-gauche avec la main. Le reste du corps est en nœud. On a fait un nœud. Et on laisse la main aller à droite, à gauche. Puis on laisse les yeux aller de droite à gauche aussi. À droite, à gauche. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche. On est toujours en nœud. Puis on laisse la tête aussi aller un peu à droite, un peu à gauche. Il y a la main, il y a les yeux, il y a la tête. Mais on se rend compte aussi que les épaules peuvent aller à droite, à gauche. Et que tout d'un coup, ça devient difficile d'orienter à la fois la main, les épaules, la tête et les yeux à droite et à gauche au même moment. Donc il y a les épaules qui partent à droite au moment où les yeux restent légèrement à droite, eux aussi, tandis que la tête part à gauche et la main continue le jeu de bascule, mais désynchronisé. Et puis à l'inverse, on peut imaginer que les yeux partent tout seuls pendant que la tête et les épaules partent à droite. Et les hanches s'y mettent. On peut emmener le ventre à droite, à gauche pendant qu'il y a une inversion. En haut, il y a les coudes qui partent à droite, à gauche. Il y a le jeu de bascule possible entre les yeux, le menton. On tourne la tête à droite, tête à gauche. On oppose les pieds, les pas passent dos, gauche à droite. On marche pas forcément dans le sens alternatif. On peut marcher à l'angle. On imagine surtout la rythmique de tous ces déplacements de gauche à droite. Il y a tous ces plans horizontaux qui se construisent. Il y a le sol qui se construit de gauche à droite. Il y a l'espace de la ceinture scapulaire. Il y a les épaules. Il y a la ceinture. Il y a le plancher pelvien qui peut basculer à droite et à gauche. Et il y a les yeux et c'est désynchronisé. Il y a une forme de chamade possible. C'est la chamade du droite-gauche. Droite-gauche et la tête à droite. C'est pour regarder une voiture passer. La tête à gauche, c'est pour éviter une claque. La tête à droite, c'est pour téter. C'est pour aller goûter. C'est pour mordre de l'autre côté. C'est pour éviter un obstacle ou c'est simplement pour montrer son meilleur profil. Ou c'est pour acquiescer secrètement.
Tu acquiesces au paysage de nuit. Tu laisses ton corps boire les informations. Permet d'attendre. Tu peux attendre calmement. On attend. Je crois que j'aime bien donner des cours à des gens qui tiennent un objet. C'est-à-dire, tu tiens un micro, c'est une posture fixante, mais au fond, on peut faire court, on peut bouger autour de la tenue du micro. C'est pareil avec les banderoles. C'est-à-dire qu'au départ, je disais, les spectacles qui se font pour Sarajevo, les spectacles qui se font pour la démocratie, pour la liberté affichée, au fond, ça met les acteurs et les danseurs en telle position de brandir une banderole qu'au fond, ils ne peuvent plus danser. J'avais l'impression qu'en affichant le slogan, le sens préalable du spectacle contre la guerre, contre la misère, au fond, eh bien, le fait de maintenir cette banderole empêchait le mouvement. Et je crois toujours que c'est vrai, mais j'ai par contre l'impression que de travailler sur le fait de porter une banderole, de maintenir une banderole haute, de tenir les poings serrés sur les petits morceaux de bois qui tiennent une banderole, au fond, c'est un bon objet pour la chorégraphie d'avenir. C'est-à-dire que ça oblige à se creuser un peu la tête sur comment continuer à tenir la banderole, mais organiser la circulation dessous, quoi. Et comment faire pour que, plutôt qu'un slogan soit écrit, peut-être qu'on peut projeter le slogan et du coup, on peut en avoir plusieurs. Et puis, sous le slogan, sous la banderole tenue, au fond, il y a encore énormément de choses possibles. En fait, ça suffit. C'est-à-dire que même si on a le bras levé, dressé, brandi, et que ça a tendance à figer la posture et à évidemment à nous connecter à toute cette histoire des résistances, des révoltes, des manifestations, dessous ça peut quand même encore pas mal s'agiter. Dans ce cas, essayez avec un petit tournevis. Si ça ne marche pas, essayez avec des clés. Si cela ne marche pas, avec un stylo. Si cela ne marche pas, essayez avec le petit tournevis et les clés, puis avec le petit tournevis, les clés et un stylo en même temps.
Ici, on s'adapte au scénario proposé. Ici, on devient adapté. On finit par s'adapter, par se sentir en confiance. Se sentir en harmonie maintenant. Cette harmonie maintenant et avec vous-même et ce qui vous entoure dans cet espace, dans cette scène. Laissez-moi vous proposer un scénario.
En fait, normalement, ça commence par un truc où je dis j'ai failli vous danser ça, j'ai failli annuler parce qu'on est en grève. D'abord qu'on se raconte avec Julia tout ce qui s'est passé sur deux jours, on s'est même pas vu. Il faut qu'on prépare ce qu'on va faire à Bordeaux. Là, on part à l'opéra, on est accueillis par des gens géniaux. On a décidé de ne pas annuler cette soirée de Bordeaux, mais de faire grève à Bordeaux, plutôt que de ne pas y aller. Donc ça veut dire quand même qu'il faut qu'on sache ce qu'on leur dit et qu'on soit précis sur ce qu'on fait et qu'on décide. C'est sûr qu'on avait prévu de danser ensemble l'après-midi d'un faune, 1912, musique de Bussy, d'après un poème de Mallarmé. Là, c'est pas possible de danser ça c'est clair. Julia, elle devait improviser sur une chaise. Ça allait être génial. Là, on peut pas faire ça.
C'est tout le temps ce qui se passe avec le régime des intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. De la venue des organisations patronales et syndicales qui ont signé l'accord sur les index humidité et humidité, 10% des intermittents actuellement indemnisés pour se trouver éjectés du système. Cet accord
porte la que ce soit clair qu'à la fin, on fait quelque chose là-bas. Donc, je pense qu'il faut. On peut pas juste dire, bah voilà, on est là pour faire grève, salut, bonsoir, tout en étant vraiment en train de faire grève. Sinon, donc c'est un peu tendancieux. En même temps, je pense que c'est génial d'aller à l'Opéra de Bordeaux, mairie Alain Juppé. Je pense qu'il faut être là, même si c'est complexe, et là, on quitte toute la dynamique qui était en ce moment lancée à Paris. Déjà, Julia et moi, on a fait partie de ce groupe de gens qui a investi la Grande Halle de la Villette dès samedi matin. Donc il y avait une AG aux têtes de la colline vendredi soir, il y avait 600 personnes. Il a été décidé de soutenir les grévistes du parc de la Villette, de la Grande Halle de la Villette.
On a décidé d'occuper l'espace Charlie Parker qui nous a été accordé et en fait de l'occuper jour et nuit. Donc des gens ont dormi une nuit et le lendemain les CRS sont arrivés pour les expulser. Voilà. Donc on a décidé de continuer à faire l'AG le soir sur le parvis de la Villette parce qu'on n'avait pas d'autre lieu et ça c'est vraiment un problème, quoi. On n'a pas de lieu pour travailler. C'est-à-dire qu'on est obligé de se réunir dehors avec des espèces d'installations sonores un peu folkloriques et on n'arrive pas à bien travailler quand même. Quoi.
Ce qui était dingue, c'est que c'est comme si on n'avait pas le droit de faire grève sur nos propres lieux de travail. Quoi. C'est quand même le délire, enfin, en un sens. On est à la Villette, on ne menace pas l'outil. On n'est pas en train de détruire l'outil, on nous interdit même d'être dans ce lieu-là. Quoi. Donc on se retrouve en plein air dans le parc de la Villette pour discuter. C'est quand même. C'est bon. En fait, le gros.
Les wagons et son personnel de heureux d'accueillir les voyageurs montés en gare de Paris-Montparnasse. Je vous invite à nous rejoindre au bar où vous trouverez un assortiment de plats chauds, des sandwichs variés, des boissons chaudes et fraîches ainsi que des revues pour votre détente. Par ailleurs, nous informons notre aimable clientèle.
Bon appétit, s'il vous plaît, à la table, il est 13h sur France.
Il est désormais nécessaire.
Le journal est présenté par Philippe Habitboul. Bonjour.
Bonjour. Montpellier, Caen, Avignon, Vienne, Paris, les intermittents du spectacle s'invitent dans les festivals, programmes perturbés, voire annulés. Les intermittents protestent contre la réforme de leur régime d'assurance chômage. La menace plane maintenant sur les festivités de l'été.
France Inter.
Une réforme est une amélioration portée à un état social ou économique. Ce protocole n'est pas une réforme, c'est une déstructuration de nos métiers fondée sur une logique d'exclusion et non de solidarité.
Un vrai festival de la contestation. Pour protester contre la réforme de leur régime d'assurance chômage, les intermittents du spectacle ont multiplié depuis le début du week-end les actions en perturbant notamment les programmes de plusieurs festivals. Mais ce matin, les intermittents qui occupaient la grande halle de la Villette à Paris ont été expulsés par les forces de l'ordre, Agnès Bonfillon.
Grande halle occupée. Hier, une banderole a été accrochée lorsque plusieurs centaines d'intermittents d'Île-de-France ont investi la salle Charlie Parker. Depuis ce matin, 9h, elle n'a plus lieu d'être.
Et tout d'un coup, les CRS sont arrivés. Un commissaire nous a dit bon, partez. Nous, on n'a pas voulu partir parce qu'il nous faut absolument un lieu pour pouvoir organiser notre mouvement. Et puis, ils ont chargé. Il n'y a pas eu de coup de matraque, mais c'est assez impressionnant. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Il y a un mur et puis les mecs nous ont pris et nous ont mis dehors. Et puis, il n'y a pas à discuter. Ils sont costauds et très costauds. Voilà.
L'ouverture du parc s'est faite à 11h au lieu de 10. Les intermittents se trouvent actuellement sur le parvis. Des petits groupes partent au fur et à mesure, mener des actions dans la capitale. TV5 ce matin, l'Opéra Comique également, avec toujours le même message. Pierre Comment, Agnès Bonfillon, France Inter.
Trop plonge.
Ce qui est drôle, c'est que la première réaction, c'est le... entendre ce type de voix-là, de réentendre aussi avec un peu de distance. Et bien, c'est le propre d'un endroit qui peut être réflexif. J'espère, et c'est ce qui est fort potentiellement à France Culture, à France Inter et dans toutes les radios de service public, c'est qu'il y a une possibilité de réflexivité, de revenir a posteriori sur les choses aussi, et le fait de pouvoir se, d'une manière ou d'une autre, rester en phase avec des moments qui sont passés ou essayer d'être en phase avec des moments qui sont à venir, ça c'est le propre d'une radio qui n'est pas figée sur l'écoulement du temps de la radio, c'est-à-dire seconde par seconde, minute par minute, la grille qui défile, qui est une possibilité de retour. Donc ça c'est la dimension de document. C'est pas quelque chose que j'ai, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi auparavant, mais j'aime beaucoup le travail de Jean-Luc Moulin, qui est un photographe... qui se définit parfois, en partie, comme « je produis des documents ». C'est-à-dire qu'au fond, c'est un créateur de photos, c'est un artiste plasticien, mais il produit aussi du document. Il présente des objets, ou il présente des gens, ou il présente des situations. Et avec les objets de grève, on pourrait dire qu'il n'a pas créé des objets, puisqu'il a récupéré des objets et il les a photographiés, selon un protocole assez simple, et il les a exposés. Mais ce qui est fort dans l'idée du document des objets de grève, c'est-à-dire qu'il a récupéré des objets qui ont été édités ou sortis à la chaîne par le biais d'un détournement de la chaîne. C'est-à-dire que les ouvriers en grève ont détourné le procédé industriel de la chaîne qui produit des objets standardisés pour créer des objets qui allaient servir à la grève, servir la grève ou représenter la grève ou les représenter eux dans leur révolte. Mais ce qui est drôle, c'est que ce type de document qu'il a produit était aussi une forme de création.
Au moment des saluts, il est d'usage que les acteurs tombent le masque. La très mauvaise pièce qui s'est jouée dans la nuit du 26 au 27 juin, répétée en coulisses par ses principaux coproducteurs, MEDEF et CFDT, et jouée à huis clos au sein d'un théâtre de l'avenue Pierre Ier de Serbie, n'échappe pas à cette règle. À l'issue de la représentation, l'un des principaux acteurs de cette farce tragique a le baron Ernest Enfantillère, qui joue dans cette pièce de Monsieur le MEDEF, vient en effet de déclarer sur Radio Classique. Le milieu du spectacle est habitué à ce qu'on ne touche pas à ses privilèges, on y touche comme à d'autres, et c'est ça qu'on appelle la réforme.
Ce qui me frappe, c'est que, a posteriori, enfin, c'est-à-dire maintenant, disons qu'on est le 10 septembre, on entend une intervention à Bordeaux, en juillet, et la radio, au même moment, quasiment, enfin, en tout cas, aujourd'hui, depuis septembre, on regarde cet événement de juillet et on voit deux choses qui sont contemporaines. Alors qu'en fait, sur le moment, ça ne coïncide pas. C'est-à-dire que sur le moment, j'ai même pas le temps d'écouter la radio, j'ai pas le temps de voir la télé, j'ai à peine le temps de lire les journaux parce qu'on agit, qu'on lit le protocole et qu'on... C'est ce qui me frappe, c'est que moi, j'ai pas entendu la radio à ce moment-là. On pouvait pas. Et ou même l'événement de la Villette, c'était déjà très loin derrière nous. C'était juste deux jours avant, mais c'était déjà tout un nombre d'événements qui s'est écoulé incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait une distance entre le fait d'aller à Bordeaux et le fait d'être éjecté de la Villette qui était immense. Et puis là, a posteriori, c'est contemporain totalement. Et là, Roland Barthes, en l'écoutant dans ses cours sur comment vivre ensemble qu'il a donné au Collège de France, il joue un peu avec cette temporalité qu'on reconstruit. Ça. Et là, c'est peut-être ce terrain de la radio où on peut tout d'un coup rapprocher des mondes sonores et des événements sonores qui semblent distincts, on les met ensemble et tout d'un coup ils semblent contemporains, alors que bien sûr ils étaient proches, mais au moment où moi je parlais à Bordeaux, j'avais le sentiment qu'il y avait un gouffre déjà entre le moment de la Villette et le fait d'être à Bordeaux. C'est-à-dire, j'étais déjà complètement déchiré par la distance.
À l'état brut, le vivre ensemble est aussi temporel. C'est-à-dire vivre ensemble, ça peut vouloir dire aussi vivre en même temps que, vivre dans le même temps que. C'est le problème de la contemporanéité. Par exemple, je puis dire sans mentir, et j'insiste bien sans mentir, tellement ça paraît, ou en tout cas à moi, ça me paraît surprenant, que Marx, Mallarmé, Nietzsche et Freud ont vécu 27 ans ensemble, et que bien plus, on aurait pu les réunir, mettons dans quelques villes suisses, en 1876 par exemple, et ils auraient pu, qui est l'ultime indice du vivre ensemble, ils auraient pu en 1876, très raisonnablement, discuter ensemble. car Freud avait 20 ans, Nietzsche en avait 32, Mallarmé 34 et Marx en avait 56. On pourrait d'ailleurs se demander quel est maintenant le plus vieux. Cette fantaisie de la concomitance, eh bien je la fais pour alerter sur un phénomène très complexe et qui est peu étudié, me semble-t-il, qui est précisément la contemporanéité. De qui suis-je le contemporain? Avec qui est-ce que je vis? Eh bien, le calendrier ne répond pas bien. Et c'est ce qu'indique notre petit jeu chronologique que je viens de faire, à moins, bien entendu, que ces quatre penseurs que j'ai cités ne deviennent contemporains que maintenant. Et c'est ça l'intérêt, précisément, de la réflexion. Autrement dit, il faudrait étudier, peut-être, les effets de sens chronologique, comme il y a des illusions d'optique, il y a des illusions de temporalité, et on déboucherait peut-être sur ce paradoxe qu'il y aurait un rapport insoupçonné entre le contemporain et l'intempestif, justement, au sens nietzschéen du terme. Et que la rencontre de Marx et de Mallarmé, ou de Mallarmé et de Freud, pour parodier l'image célèbre des surréalistes sur la table du temps, est une image tout à fait incongrue. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé.
J'ai failli.
Arctic pré-Bordeaux, festival La Part des Anges qui n'a pas lieu. La Part des Anges a disparu, c'est ça en fait,
ouais, c'est un volet.
C'est... Ouais. Donc... Le Cuvier de Feydeau, c'est le théâtre d'Arctic près Bordeaux. Et là, on est dans la salle de théâtre et télévision. C'est drôle, c'est que c'est déjà un spectacle qui est vide en un sens, puisque on a un faux piano à base de flycase, c'est-à-dire des éléments de décor assez pauvres, mais liés au monde du spectacle, qui sont assemblés maladroitement. Et puis. En fait, c'est un spectacle vide parce que le spectateur vient seul, normalement, et face à une télévision. Et là, que même ce spectateur-là, il ne vienne pas parce qu'on annule le festival, parce qu'il faut réagir, là, c'est dur, quoi. C'est même pas une grande... C'est l'inverse d'une grande salle pleine qui reste vide. C'est une salle déjà quasi vide qui, là, est vraiment morte. Chose comme ça. Bon.
Dans un cube aux parois noires et luisantes, cinq étranges danseurs. Ils portent des académiques couleur chair, sorte de combinaison qui leur colle au corps comme une seconde peau. Il y a deux femmes et trois hommes, dont un au sol, secoué de spasmes. Il s'appelle Benoît, c'est lui qu'on entend. Tous les visages sont figés dans une attitude grotesque, les yeux fixement tournés vers la droite, la langue sortie et la lèvre supérieure retroussée sur les dents. Le plus grand des deux danseurs s'appelle Nuno, l'autre c'est Boris. Voici son rire. Il s'est glissé derrière Julia, l'une des danseuses, et secoue avec espièglerie sa queue de cheval. Il lui touche le front, passe une main agitée entre ses jambes et lui attrape un doigt. Il saisit aussi le poignet de Mathilde, l'autre danseuse. Il s'accroupit, main jointe, et effectue entre ses jambes ouvertes un mouvement de va-et-vient. Boris est châtain, tendance roux, la trentaine. Il est grand, a les épaules larges et un buste fin. Caché derrière Nuno, il tape son coude contre le plafond. Il allonge une jambe pour caresser Julia avec le pied. Il revient près d'elle et lui attrape le menton. Elle le repousse en riant. Il tombe à genoux, se relève en se dépliant jusqu'au plafond couvercle. Il plie les jambes et attrape au passage les bras des filles. La main de Mathilde reste posée sur sa poitrine.
Thank you.
Brusquement, elle empoigne le fantôme par le pied et le tire jusqu'au bout du couloir. Noir, une photo s'éclaire. Noir, il se passe des choses qu'on ne voit pas. Deux images se superposent. Au premier plan, Nuno et Benoît face à face, à quelques mètres de distance. Entre eux, au second plan, Myriam et le morceau de viande dans le couloir obscur.
Là, c'est l'imbrication totale rendue possible par
les
la radio.
Les deux danseurs se bouchent le nez.
Parce que la télévision, c'est une danse.
Myriam allonge un bras vers la viande et puis l'autre, comme si elle armait un fusil.
Enregistrée, filmée, mise dans une télé, mise dans une installation,
vue
par un spectateur. Là, en fait, commentée en audiovision, pour des aveugles.
Les deux danseurs tiennent par la bouche.
Une voix dite neutre qui ne l'est pas du tout. Ça n'existe plus depuis longtemps. Commentant la danse en direct, en même temps, maintenant, moi, j'écoute. On écoute cet extrait-là. Et donc, il y a des boîtes imbriquées, parce que la danse se passe dans différentes boîtes. Les décors qui sont à l'intérieur de la télé, finalement. Des attributions sont... Enfin, on peut l'imaginer qu'ils sont les uns à l'intérieur des autres, parce que c'est des boîtes les unes à l'intérieur des autres. En plus, on entend sur la bande-son les conduits d'eau du Centre National de la Danse qui goûtent, qui s'écoulent. Donc, on est aussi dans cet espace-là concret de l'installation des télévisions à Paris au Centre National de la Danse. En même temps, là maintenant j'entends et j'ai envie de commenter en direct par-dessus sa propre voix.
Nuno, Mathilde, Boris et Benoît font une ronde immobile autour d'une ampoule allumée montée sur un pied de micro.
Sur les ondes.
Cette unique source de lumière fait briller des tubes de métal.
Tout a l'air d'être contemporain alors que c'est une énorme dérive dans des espaces qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Déjà, les danseurs dans la télévision, certains ne se sont pas rencontrés. On n'a pas
l'éclairage se généralise.
Après, on est mis ensemble.
La ronde a lieu sous un échafaudage, comme une cage à poules.
Et là, il y a un
noir.
Pas être la musique de l'intermittent, ça. Ce qui est spécial, c'est que l'après-midi d'info, ça a fait scandale, ça a valeur aussi politique, dans le sens où c'est une forme de non-virtuosité affichée, une forme de contrainte sur le corps, de composition aussi précise des mouvements. Et une chorégraphie qui est plus seulement expressive, qui tient de la composition, qui tient de la volonté esthétique forte de forger un corps, forger un spectacle qui soit pas seulement le spectacle qui va plaire. Et puis c'est en tout cas, il y a un impact extrêmement fort en 1912 de la création de l'après-midi d'info. Et ça a toujours un impact, enfin, c'est un autre impact aujourd'hui de redanser l'après-midi d'info. C'est juste que comme l'impact est déplacé, j'ai l'impression qu'il ne peut pas, il ne peut pas se coller à l'émotion de l'intermittence. Enfin, comment dire, c'est pas possible. Il faut que si on décide de gesticuler pour l'intermittence, il faut que ce soit notre gesticulation. C'est-à-dire, soit on danse, soit on ne fait rien, et si on fait quelque chose, qu'au moins ce soit à nous dans l'instant, maintenant. J'ai failli parler à l'Opéra de Bordeaux, car à l'invitation d'Alain Juppé, qui m'a invité personnellement à danser l'après-midi d'un faune de Nijinsky. Je suis très fier, je suis très heureux, et je remercie du fond du cœur le maire de Bordeaux pour
la politique artistique exceptionnelle d'aide aux jeunes artistes bordelais.
Pour la première fois depuis sa création en 1947, le Festival d'Avignon n'aura pas lieu cette année. Après Aix-en-Provence, c'est donc Avignon qui a jeté l'éponge aujourd'hui. Tout un symbole lorsque l'on sait que le Festival d'Avignon est incontestablement le principal rendez-vous mondial du théâtre. Avignon qui est au théâtre, ce que Cannes est en quelque sorte au cinéma. Après avoir longuement hésité et mûrement réfléchi, son directeur, Bernard Fèvre-Darcy, a annoncé en fin de matinée sa décision. Un Bernard Fèvre-Darcy est d'autant plus ému que c'était son dernier festival en tant que directeur. Ambiance, émotion et consternation en Avignon avec ce reportage de Corinne Audouin.
Midi, dans la cour du cloître Saint-Louis, Bernard Fèvre-Darcy prononce les mots que personne n'aurait voulu entendre.
Les derniers mots sont donc des mots de remerciement.
Dans ce cas.
Et des mots de courage, j'aimerais dire.
Essayez avec un petit tournevis.
Il va falloir démonter, ranger.
Cela ne marche pas.
Répondre au public.
Essayez avec des clés.
Ce 57e festival est clos.
Ça ne marche pas avec un stylo.
Mais les débats bientôt se tairont. Ceux qui voulaient jouer, comme Ariane Mnouchkine, n'ont pas été entendus.
Si cela ne marche pas, essayez avec le petit tournevis et les clés, puis avec le petit tournevis, les clés et un stylo en même temps.
Ça va laisser des traces, hein. Ça va laisser des traces entre nous.
Si cela ne suffit pas.
Dès que quelqu'un disait non, utilisez
les doigts.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, c'était l'ennemi, c'était...
Mettre les ongles.
Le traître, le collabo, c'était pas
des... En lui glissant le bout des doigts des
donc
deux
voilà,
mains.
Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui pensaient, jouons et
en
passons
appuyant
la nuit
avec les paumes des mains,
à débattre avec le
public. Et en tirant sur les ongles.
J'admets tout à fait qu'on a perdu.
Et en forçant sur les bras, et si cela ne marche pas, il faut frapper avec les poings. Si cela ne suffit pas, il faut appuyer le dos en poussant sur les pieds calés et appuyer les épaules et les hanches en poussant sur les bras calés. Et si cela n'est pas suffisant, cogner les phalanges des doigts, les coudes, les genoux, frapper avec le front. Si cela n'est pas suffisant, il faut poser le front, le nez, la bouche et les mains dessus le front et appuyer dessus le front, par terre, arc-bouté sur les jambes. Si cela ne marche pas, il est possible de donner des coups de pied, puis des coups de tête, puis des coups avec tout le corps. Puis, si cela n'est pas suffisant, il est possible de parler fort, d'invectiver, de jurer, d'inventer des injures, d'injurier, de crier, de cracher, de jurer, de frapper, de pleurer, de maudire, de crier indistinctement, puis de hurler, crier, maudire, cracher, jurer.
Fallait utiliser le mot invention. l'impression que... On, déjà, c'est un mot qu'on n'utilise plus. On utilise expérience. On utilise manipulation. On utilise hypnose. Tension. On utilise... toucher, distance, torsion. On dit pas invention, inventif. Ah, c'est inventif. Je crois que c'est la seule manière d'éventuellement utiliser quand même le mot et de répondre quand même finalement à la question de l'invention, du geste, c'est de le faire tourner, quoi. C'est-à-dire de le balancer dans l'espace et de d'essorer le mot, de vider tous les a priori qui sont la vieille soupe liée à l'invention, quoi. Donc essorage, quoi, soumettre à l'essorage, Invention. Ah non. Ah. Non, si. Il vaut mieux pas utiliser le mot, c'est... Vaut mieux... Faut pas s'occuper d'invention, faut s'occuper de... On ferait mieux de s'occuper de l'échafaudage. Voilà. Échafaudage contre invention. Échafaudage artistique, c'est la manière dont ça s'invente. C'est la manière dont le ça s'invente. C'est la manière dont le moi s'invente, dont le dessus-moi s'invente. C'est s'occuper de la machination des corps, c'est s'occuper de la fabrique concrète de l'art, c'est s'occuper des modes de transmission, c'est s'occuper des modes d'apprentissage, des modes d'effectuation.
L'intermittence du spectacle est une précarité sociale assumée au bénéfice des échanges artistiques. Si elle autorise des entreprises abusives à affaiblir des employés permanents, elle a aussi été un moteur pour la recherche chorégraphique en France, presque aussi efficace que la puissance publique. Elle ne nuit pas forcément à la continuité d'un travail en bande, mais elle a permis aux artistes d'assouplir les rapports d'employés à employeurs et de faire prendre conscience du potentiel d'autonomie de chaque parcours. En soulageant toutes les périodes dites d'inactivité pendant lesquelles un intermittent perçoit une indemnité chômage de la CEDIC, l'intermittence a rendu l'artiste plus responsable de ses choix. Avant de choisir un employeur, il peut choisir des projets qui n'ont d'ailleurs pas à être homothétiques. Il est en mesure d'alterner des projets dits expérimentaux ou dotés de peu de moyens et des expériences plus solides économiquement. Ce statut est précieux. Il permet par exemple de développer à la fois un travail de chorégraphe et d'interprète. Il permet surtout de prendre des risques artistiques et de faire exister tout un monde artistique indépendant à la fois des grosses institutions de l'État et du pur secteur commercial. L'État n'est pas à l'origine de l'intermittence du spectacle, mais c'est lui qui, en dernière instance, est le garant de sa survie.
J'ai failli dire cela tout d'abord, que j'étais socialiste, avec un projet socialiste, parce que socialiste c'est déjà assez mou quand on pense à l'impossibilité aberrante de tisser des liens, notamment avec les mouvements anti-mondialisation ou alter-mondialisation comme on les nomme maintenant. J'ai failli dire que les sans-papiers méritaient d'être traités dignement et qu'un Premier ministre tel que je le suis, porté au pouvoir sur fond de contestation initiée par les sans-papiers, ne pouvait pas tergiverser, ne pouvait pas rester froid, au risque de froisser, justement, de fâcher, au risque de perdre au jeu démocratique peut-être, mais au risque d'affirmer une posture moderne et ouverte. J'aurais dû, c'est vrai, agir prioritairement pour ces hommes et ces femmes courageuses qui demandent à la France le droit de participer à son élan. J'ai failli m'opposer clairement à ce mot de tolérance. Cette tolérance zéro qui nous a tous hypnotisés au point de paralyser notre langue. Comment avons-nous pu laisser s'installer ce mot ? Tolérance zéro, qui constitue une double faute. Double faute parce que c'est d'impunité zéro dont il fallait éventuellement débattre. Et l'on voit bien que c'est d'impunité dont a bénéficié justement mon adversaire politique. Double ensuite parce que le mot tolérance aurait dû être réaffirmé par nous, la gauche, dans le sens qu'il doit avoir en France. La tolérance, la belle tolérance, c'est la valeur d'une gauche qui sait accueillir et ouvrir son identité nationale à un échange et une invention permanente à l'autre. La tolérance ne doit pas être stoppée, tolérance zéro, mais encouragée en ces temps de crise moyenne-orientale et d'exacerbation des tensions mondiales, ces temps de retour à une moralité de façade dénuée de toute éthique. J'ai failli dire que le sentiment d'insécurité réel devait être pensé. Les jeunes meurent de suicide et d'alcool au volant bien avant d'être violés par un multirécidiviste pédophile. La violence contre les femmes s'exerce prioritairement en famille et au foyer, et les menaces qui pèsent sur l'enfant proviennent essentiellement de la famille et non d'une quelconque menace extérieure. La politique entend les faits divers, mais se pense à l'aune d'une gestuelle plus vaste. J'ai failli dire autre chose. Je n'aurais peut-être pas dû m'appuyer sur mon bilan. Je persiste à penser qu'il est positif, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le projet de gauche est un élan critique et insatisfait par essence. Nous ne sommes pas portés au pouvoir par assurance positive, par l'idée que la politique s'exerce déjà bien. La gauche ne peut aimer le pouvoir en soi pour lui-même, pour sa reconduction, chargée au fond de laisser la liberté à tous de s'organiser d'eux-mêmes et d'organiser leur liberté. Un projet de gauche est une volonté d'agir sur les structures sociales, les déterminismes sociaux, les difficultés d'accès au savoir, à l'art et à la culture pour que tous les citoyens soient ensuite en mesure d'exercer cette liberté et ce libre arbitre. Un projet de gauche, c'est un projet critique. Et je n'ai peut-être pas pu exercer la critique d'une situation actuelle dont j'ai été l'un des acteurs premiers. Et pourtant, j'étais toujours à deux doigts de dire cela. La place des femmes par les lois sur la parité a été affirmée sous notre gouvernement. J'aurais dû, notamment, refuser que Sylviane, ma femme, se prête au jeu ridicule, au fond, de la future femme de chef d'État. Nous avons essayé de montrer que, bien que philosophe, elle pouvait aussi jouer le rôle de Bernadette. Non ! J'aurais dû affirmer que le rôle des femmes en politique passe par leur chemin politique et que l'on n'élit pas en droit un couple à la tête de l'État. C'est même la distinction essentielle. Avec le régime monarchique, il n'y a pas de roi et de reine. On est élu pour représenter le peuple, homme ou femme. Si vous voulez une femme, élisez-la, elle et non son mari. Mais il y a plus. Un pan entier de l'action de la gauche au gouvernement depuis 1981 a été passé sous silence. Mais il y a plus. Un pan entier de l'action de la gauche au gouvernement depuis 1981 a été passé sous silence. Par crainte d'affronter brutalement le poujadisme et l'inculture en matière d'art, je me suis tu. Et pourtant, centre dramatique, centre chorégraphique, centre d'art, tous ces décentrements initiés par la gauche auraient pu être proclamés haut et fort comme une possibilité d'ancrer l'action concrète, sociale, économique, politique vers un avenir fondé par l'éducation, la culture ouverte et l'art. Il y avait là la possibilité de fonder un projet politique pour la gauche. À ceux qui ne voient pas de différence, il fallait montrer comment une nouvelle ville prise par la droite balaye les politiques culturelles quand certaines villes phares, comme Rennes ou Montpellier, ont su tisser entre l'art, la ville, les universités, la recherche, un maillage qui est le gage potentiel d'une France inventive. Je n'ai jamais été porté sur l'art. Et moins encore sur l'art du XXe siècle, cet objet de transformation permanente. Et pourtant, j'ai toujours été à deux doigts de dire cela, qu'il y a une adéquation possible entre ce qui guide la recherche scientifique, l'art moderne, l'enseignement public, la politique de gauche critique, sachant s'inventer et réagir face à un monde que l'on sait sans garant, sans certitude absolue. Voilà le modèle possible de notre action. Et au lieu de cela, j'ai eu, je l'avoue, réticence à défendre ces artistes qui sont pourtant aussi en partie acteurs de, etc., etc. Je n'ai pas parlé d'art qui fâche. Je n'ai pas parlé d'art qui fâche. Politique qui ne fâche pas, art qui ne fâche pas. Mais c'est la même face d'une médaille qui n'a qu'un seul revers, la défaite. La défaite, je me retire, je disparais. Je disparais à jamais. Je laisse dans mon sillage ces acteurs de l'art, ces acteurs de la recherche, ces acteurs de l'éducation, dont je n'ai pas su tirer profit symbolique. Je pars. Je disparais jamais. Il fallait parier sur l'art, la recherche. Les Argentins d'aujourd'hui réclament
du lien plutôt que du bien. Du lien plutôt que du bien. La gauche est de ce côté-ci, où elle n'est pas. La gauche est de ce côté-ci, où elle n'est pas. La gauche est de ce côté-ci, où elle n'est pas.
On n'avait pas encore entendu le Premier ministre s'exprimer sur le conflit des intermittents du spectacle et sur l'annulation d'un certain nombre de festivals de l'été. C'est chose faite ce soir. Lors d'un déplacement au Luxembourg, Jean-Pierre Raffarin fait part de ses sentiments sur les conséquences de ce conflit et annonçait par ailleurs qu'il allait mettre en place un programme national pour la pérennité des festivals. Jean-Pierre Raffarin au micro de Quentin Dickinson.
La France en ses festivals est blessée. Je connais l'importance des festivals en France. Je connais l'importance pour les femmes et les hommes de culture, pour les créateurs, pour les techniciens. C'est pour ça que j'ai une profonde tristesse au cœur quand je vois qu'on prive des jeunes, on prive les publics les plus populaires de cette expression culturelle. Je souhaite vraiment que nous gardions en France cette terre de festivals et j'appelle les uns et les autres à prendre conscience combien un pays comme la France a besoin de sa diversité culturelle. Il est normal que chacun s'exprime. Mais il est aussi normal que l'on puisse respecter le dialogue social et que l'on puisse faire en sorte que dans notre pays, des règles de débat social puissent être respectées. On ne pourra pas avancer dans la culture comme dans d'autres sujets si nous n'avons le choix entre l'immobilisme et le blocage. La culture, au contraire, appartient à tous et doit être partagée par tous.
Cela ne marche pas. Essayez avec le petit tournevis et les clés, puis avec le petit tournevis, les clés et un stylo en même temps.
Demain, à 23h, rendez-vous avec Hélène Azéra. Mercredi prochain, Nathalie Salle explore l'accent de la cigale. Et jeudi, Elisa Monteil, Céline Laurence et Gilles Mardi-Rossian composent des corps et des cordes ou l'apprentissage du bondage. Maintenant, c'est Philippe Garbi pour toute la nuit sur France Culture.